RNV. Nous sommes le 20 juin, il est déjà 18h et c'est l'heure bien sûr d'un nouvel épisode de Voyage Voyage. Je suis avec Françoise évidemment, elle va nous envoyer en voyage. Salut Françoise.
Bonjour.
Je crois que cette semaine, ou plutôt ce mois d'ailleurs, c'est la Turquie qui va nous accueillir.
Oui, où j'ai été le mois passé au carnet de voyage.
Un voyage tout frais donc.
Tout frais, il bouge encore, en tout cas dans mon cœur, dans mes yeux, c'était merveilleux.
La Turquie, c'est déjà un pays que tu connaissais ou c'était une première ?
J'étais seulement à Istanbul il y a 5 ans, et puis là, la proposition s'étendait à d'autres lieux, dont un lieu que je rêvais de voir depuis très longtemps, qui est le site archéologique d'Éphèse.
Mmh. Alors la particularité de la Turquie, c'est bien sûr qu'elle a eu différentes époques, différentes périodes, différentes occupations qui ont été en place. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans ce pays ?
Ben évidemment, parce que tu as la Turquie moderne, hein, avec des monuments actuels, et puis tu as la Turquie du 15e avec ses palais, tu as la Turquie archéologique avec ses sites gréco-romains. Il y a beaucoup de périodes que tu traverses. En tout cas, ce voyage était prévu pour.
Mmh. Alors ce voyage, justement, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc j'imagine bien que vous êtes quand même passé par Istanbul, mais quel était le trajet qui était prévu cette fois ?
Alors Istanbul, bien sûr, on est arrivé. Et puis, il y a quelques mosquées, évidemment, à ne pas manquer. Sainte-Sophie, qui est donc passée du statut de musée à celui de mosquée par la volonté de son chef d'État.
Mmh.
La dernière fois, je l'ai visitée en tant que musée, donc on a pu aller en bas. Et puis là, on est sur des tribunes où on la voit d'en haut. Ce n'est pas ma mosquée préférée. Je lui préfère de loin la mosquée du sultan Suleyman,
okay,
qui a été construite par un célèbre architecte, Sinan, qui fait des choses d'un équilibre architectural extraordinaire, d'un raffinement exquis, et qui a surtout un cimetière d'imams qui date aussi du XVIe siècle et du XVIIe, avec des stèles qui sont chacune des œuvres d'art, et des fleurs. La dernière fois, c'était des hortensias, cette fois, c'était des iris.
Mmh.
Enfin, c'est d'un raffinement qui fait un bien fou. Le tout baigné de soleil, c'était parfait.
C'est sûr qu'on imagine aussi qu'entre ce qui a été construit à la demande d'Erdogan, qui est donc extrêmement récent, et ces choses qui sont plus que centenaires, multicentenaires, évidemment, les choses ne se font pas de la même manière. Évidemment, les artistes présents à la construction étaient très différents et certainement pas du même nombre.
Certainement pas du même nombre, probablement pas de la même qualité. Évidemment que ça reste qualitatif, hein, je veux dire, dans l'architecture, il y a probablement des protocoles à respecter, entre autres toutes ces coupoles. J'aime beaucoup les coupoles, dans le fond. Je trouve que ça donne beaucoup d'harmonie au paysage de quelques coupoles dont il peut s'agir. Et puis, alors, les tapis, évidemment, les lustres. La lustrerie est absolument incroyable. On a des lustres qui ont, 15 mètres de circonférence, quoi. C'est de la folie.
Un peu comme des gros châteaux chez nous.
Ah, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est toujours des lieux avec beaucoup de paix, vraiment. On voit bien qu'on se recueille, qu'on prie, qu'on se rencontre, et où on se sent bien. En tout cas, moi, je m'y sens bien. Puis, comme on a dessiné à l'intérieur, on a pu mesurer un petit peu cette atmosphère.
Naturellement, c'est des lieux de culte. Ce sont d'ailleurs des lieux de culte. Est-ce qu'ils sont faciles d'accès ? On sait que, par exemple, dans certaines églises catholiques, tu ne rentres pas si tu as les bras découverts, etc. Comment ça se passe ?
Alors, en Turquie, évidemment, il faut se couvrir les épaules et la tête.
Mm-hmm.
Mais autrement, c'est un pays où la femme non musulmane ou les non musulmans sont admis sans problème. On paye une petite entrée quand même de temps en temps, pas toujours. Alors il y a le petit stand de propagande, j'ai reçu un Coran en traduction française.
Oui.
qui m'a été donnée avec un grand sourire et grande gentillesse. Puis voilà, je veux dire, j'ai pas du tout ressenti d'oppression. Sauf que l'habillement des femmes en tant que femme me choque.
Oui.
Tu vois, alors, ça va de la mini-jupe, parce qu'il y en a aussi.
Ok.
Mais la majorité est quand même dans ces robes grises, beiges, bleu marine, noires.
Mais c'est assez neutre.
Faut passer inaperçu.
Ouais, c'est ça.
Et ça contraste évidemment avec ces vitrines, avec ces robes de soirée et de mariage constellées de paillettes, de perles qu'elles peuvent porter pour les cérémonies ou chez elles pour leur mari. Hein.
Ouais, puis ça contraste aussi avec l'art que produit l'islam en règle générale, qui est très riche, qui est très coloré, qui propose beaucoup de rondeur, etc., beaucoup de diversité, au contraire justement de ces vêtements.
Ben écoute, on fait la différence entre le matériel et visiblement l'humain. Mais bon, je pense qu'elles ont quand même plus de marge de manœuvre qu'en Iran, les femmes. L'Afghanistan, on n'en parle même pas, hein,
bien sûr,
actuellement.
On sait que c'est évidemment compliqué dans différents de ces pays. Alors on a parlé bien sûr d'un peu d'Istanbul. Est-ce que vous avez visité d'autres villes ?
Oui, on a pris un ferry. Et on a traversé la mer de Marmara pour aller à Bursa, qui est une cité qui est non loin de Nicée. Il y a un célèbre concile qui s'est tenu à Nicée, qui fête un anniversaire cette année. Et Bursa est une petite ville qui a une grande mosquée, qui est célèbre pour ses calligraphies géantes, extraordinaires. Donc tu vois, quand tu dessines, c'est juste un régal que l'art de cette calligraphie, même en essayant de faire la plus modeste d'entre elles, ça te prend un temps fou, tellement cet art est d'un raffinement, d'un équilibre. Mais voilà, tu passes un moment en dessinant avec ces lieux et tu remarques à quel point l'art est grand, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des gens, des artisans extraordinaires.
Quand on parle de calligraphie géante, quelle est la proportion ? Est-ce qu'on parle de quelque chose de plusieurs mètres de haut ?
Oui, alors facilement 2-3 mètres sur ces colonnes, où chaque fois il y a un design différent, en préservant l'harmonie du lieu, ça doit te faire du bien. Bon, c'est évidemment chaque fois des versets du Coran stylisés. Et puis, c'est des gens qui offrent, évidemment, ces calligraphies à la mosquée, comme certains ont offert les peintures dans les chapelles de Saint-François d'Assise. Je sais ce qui me vient à l'esprit. Tu retrouves ça facilement dans les églises catholiques.
C'est une bibliothèque que tu allais voir en Turquie. L'as-tu trouvée ?
Oui. Alors, cette fameuse bibliothèque d'Éphèse, qui n'a plus rien d'une bibliothèque d'ailleurs.
Bien sûr.
Tu sais, je ne sais pas si tu as ça toi, mais moi, il y a des choses, enfin des monuments, c'est sur ma liste, je veux les voir.
La to-do list.
La to-do list, monument, je veux voir ça. Et ce monument, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était dans mon livre d'histoire à l'école.
C'est possible.
Ça, je veux y aller.
Donc on est en période gréco-romaine, hein ?
Voilà. Donc on est à Éphèse, sur ce site extraordinaire, qui a plusieurs qualités et un gros défaut, c'est qu'il n'est pas loin de la mer, donc il y a beaucoup de paquebots qui débarquent, des milliers de touristes
en vrac.
Tout d'un coup, tu ne vois plus rien.
Okay.
Donc il faut aller tôt, en plus il fait moins chaud. Et ils ont laissé quand même quelques monuments sur le site, ce qui fait qu'il est plus habité que d'autres, je dirais. Il y a des statues d'Hermès en particulier. Et puis cette bibliothèque qui a été reconstruite par l'équipe d'archéologues allemands, qui était détruite à 60%. Et ils ont fait ça mais magnifiquement bien, hein, vraiment. Et voilà, j'ai décidé que je passerais un grand moment, plutôt que d'aller visiter plus, avec cette bibliothèque pour la dessiner. Et comme d'habitude avec le dessin, tu vois moins mais mieux. Et plus tu fais, plus tu te dis, non mais quand même, c'est incroyable, c'est tellement complexe. Ah oui, il y a une colonne, puis il y a encore un chapiteau, puis ils ont encore... Et le ciel bleu derrière, certaines fenêtres qu'ils ont laissées évidemment apparentes, hein, ça reste quand même une ruine. Puis c'est, je dirais, un monument emblématique de la Turquie. Ça, et puis Sainte-Sophie, et puis Pamukkale, où on est allé après, donc avec cette fameuse tuffière blanche. Et puis les Cappadoces, si on te demande 4 ou 5 trucs emblématiques, voilà. Mais j'étais ravie, et rien n'a détourné ma concentration et surtout mon bonheur d'être en face de la vraie bibliothèque, pas celle d'une photo.
Justement, c'est vrai que quand on a fantasmé quelque chose quelque part depuis très longtemps, tu nous l'as dit, hein, c'était quelque chose que tu voulais faire une fois dans ta vie, peut-être même depuis ton enfance, il y a une certaine pression, le fait d'être devant, et parfois on est déçu, on peut se dire... Ah bah c'est plus petit que je pensais, ah c'est moins impressionnant. Ah.
Et les choses fantasmées, hein.
Ouais, donc là c'est pas le cas.
Ouais, non, alors franchement, charisme il y avait, et beaucoup. J'imagine peut-être que ça devait être une vie extraordinaire que d'être dans cette cité où tout est fait pour, voilà, tu vis dans un musée, pratiquement, hein, avec aussi des beaux bas-reliefs. Ils ont bien travaillé, les archéologues allemands. Ils ont demandé quand même, en échange, de pouvoir avoir des pièces. Mais ils ont convenu de faire un très beau musée, très bien fait. Tu sais pas, ces musées poussiéreux. Là, chaque pièce est mise en valeur, éclairée de manière à ce que tu puisses la photographier sans qu'il y ait de reflets.
Ouais, ça, c'est super, ouais.
C'est fait pour que la pièce soit devant, vraiment. Il n'y a pas... énormément, mais il y a tout ce qu'il y a de plus beau, dont les fameuses statues de la déesse Artemis, avec on croit que c'est des nénés qui pondent, mais en fait c'est des testicules.
Ok.
voilà. Donc, beaucoup de savoir-faire qui est bien préservé ou bien restauré. Je dirais que ça vaut le voyage, Éphèse.
On peut s'étonner que ce soit des archéologues allemands qui soient allés là-bas.
J'ai l'impression, mais je ne suis pas au courant, qu'ils se sont un peu partagés la Méditerranée, hein. Peut-être les Français en Égypte, et puis les Allemands en Turquie.
On sait que les Européens aimaient bien faire ça, on l'a fait avec l'Afrique, on l'a fait avec beaucoup de régions. Hein.
Voilà. Et puis bon, Pergamone, hein, on est allé avant, qui est un autre site, comme je t'ai raconté, ils ont déplacé le tombe de Zeus en entier dans un musée construit pour ça à Berlin. Pour prix de leurs travaux archéologiques. Parce qu'évidemment, les pays n'ont absolument pas les moyens financiers de faire ces fouilles. Et après, ils recueillent les bénéfices de ces fouilles pour le tourisme. Là, vraiment, et c'est cher l'entrée. Hein. C'est 40 euros.
Ah oui, quand même, ouais.
40 euros. Donc, tu
croises pas beaucoup de Turcs, j'imagine.
Écoute, ceux qui sont riches, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
J'ai rarement payé aussi cher pour une entrée. Heureusement, notre organisateur nous avait acheté un passeport qui permet d'entrer dans tous les monuments historiques de toute la Turquie. Tu payes 100 euros et tu vas partout.
Okay.
Mais si tu passes que dans un ou une ou deux places et que tu payes à l'entrée,
c'est
très cher.
Il faut s'organiser, peut-être aussi d'ailleurs que les locaux ont des possibilités.
C'est des sources de revenus maintenant, elles vont dans quelle poche, hein.
Ouais, bien sûr. Bon, d'un autre côté, c'est clair que ça demande beaucoup d'entretien et puis c'est aussi logique. Et pour ce qui était donc de l'Allemagne, c'est assez aussi intéressant de réaliser qu'aujourd'hui, le pays dans lequel il y a une plus grande diaspora turque, c'est justement l'Allemagne.
Ouais.
C'est peut-être pas pour rien qu'il y a ce lien aussi à ce niveau. Voilà.
Il y a des traditions comme ça.
Exactement. Tu nous parlais d'une tuffière tout à l'heure.
Oui.
Tu nous en dis deux mots de cette tuffière ?
Alors, là, on a pris le train pour y aller. Comme c'était très, très, très sympa aussi de prendre des transports publics à Pamukkale. C'est donc une formation géologique faite de calcaire, avec de l'eau, évidemment. Il en reste quelques bassins avec de l'eau chaude, parce qu'il y a des sources thermales que les Romains ont exploitées d'ailleurs, qui se trouvent derrière cette formation, cette tuffière. Alors ça donne un paysage, tu as l'impression que tu as un glacier devant toi. Et ben c'est du calcaire. Et il faisait chaud, c'est l'endroit où on a eu le plus chaud.
Bah, déjà rien qu'avec cette couleur blanche, ça doit amener,
ça doit
amener du chaud.
C'est assez aveuglant,
hein.
Mais c'est blanc. Hein.
Ouais.
C'est assez extraordinaire. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi blanc sur une aussi grande surface. Je ne sais pas si on a ailleurs dans le monde. En tout cas, celle-ci, elle est particulièrement connue. Et évidemment, tu vois, ils ont planté des arbres au bon endroit. Donc, il y a toute une série de pins extraordinaires. Alors, tu as ce vert pin qui contraste avec ce blond là, calcaire. Le calcaire peut être un petit peu beige, voire brun. Ben là, pas du tout. C'est probablement dû à la qualité de la roche qui a dessous. Et c'est complètement... tu es dans un autre monde.
Oui, c'est assez énorme. Hein. Je le disais quand tu m'en parlais, il y a une mini tuffière pas loin de chez nous, là, sur les gorges du Nozon, qui fait 2-3 mètres de haut, 2-3 mètres de large. Là, c'est une montagne dont on parle.
Ah oui, oui, c'est absolument une montagne, mais une espèce de cirque. C'est une espèce de demi-lune assez étalée. Alors tout le monde y va, c'est assez glissant. Donc il faut faire très attention, mais tu es dans une espèce de mer de calcaire avec évidemment certaines vasques qui se sont formées où les gens se baignent dans de l'eau chaude en regardant un paysage qui est assez plaisant hein, autour de cette région. Et c'est tout d'un coup, tu sais, c'est comme le creux du vent.
Oui. On ne sait pas pourquoi, tout à coup le paysage change et puis il y a ce truc
formation
étonnant.
Géologique incroyable.
Bien sûr, la nature et ses bizarreries parfois. Mm-hmm. Alors, on sait que t'aimes les gueules aussi, t'aimes les gens, t'aimes rencontrer les gens. Comment ça s'est passé avec ces Turcs?
Mais écoute, alors ils parlent peu anglais, à ma grande surprise, parce que c'est quand même un pays assez touristique. Je crois que là, les directives gouvernementales ont été assez claires. Faut pas leur faire trop apprendre des langues qui peuvent les faire communiquer ou partir. Je sais pas. En tout cas, il y a peu de gens qui parlent vraiment bien l'anglais.
Ouais.
On a quand même eu des échanges, entre autres avec nos guides, avec les gens dans les petits hôtels où on était, où il y avait des autochtones aussi, comme d'habitude, avec... ces voyages que je fais. Mais ils sont adorables, ils sont hyper gentils, hyper serviables, ils veulent vraiment vous faire plaisir, ils sont rigolos. Enfin, j'ai eu un bon contact pour ceux que j'ai eu. On a quand même été dans les marchés, dans les souks. Et puis bon, bah là, c'est moins touristique, je dirais, en tout cas là où on est emmené. Jean-Daniel nous emmène toujours dans des endroits où il y a beaucoup d'autochtones. Il prend le soin de faire ça.
La dernière fois que tu nous as parlé de marché, c'était en Égypte.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un lien entre les marchés turcs et les marchés égyptiens ou est-ce que c'est totalement différent?
On n'a pas été assez en campagne pour que je puisse faire la comparaison. Mais au fait, on a été dans les souks où il y a tout, hein. Du poisson jusqu'à la cafetière en passant par la plaque électrique. Mais c'est ça qu'on aime dans le fond.
Tu vas t'acheter des épices et une télévision.
Et on dessine cette diversité. On a été à un marché du samedi mais c'est incroyable. Quoi. Il y avait un brocanteur qui avait des bijoux incroyables. On les a tous essayés. Ils aiment beaucoup évidemment ce qui brille.
Oui.
Et puis j'ai trouvé des très jolies choses pour pas grand chose en ayant bien rigolé après avoir essayé tout le stand donc contact très très chaud aussi dans les restos. Nous on était assez fascinés par ces pitas là, ces pains qu'ils font au feu de bois. On a demandé un jour pour aller les faire. Alors, hop, tout le monde a reçu un tablier. On est allé cuire notre propre pain.
T'es devenue une pro de pain pita.
Voilà. Absolument.
On va terminer en musique, bien sûr. Tu nous as choisi de nous mettre un peu dans l'ambiance.
Oui. Écoute, c'est une chanteuse qui est accompagnée par un joueur d'oud du luth oriental qui se joue avec un plectre. C'est de la musique populaire et je trouve que c'est assez représentatif. Écoutez cette belle langue qu'est le turc.
C'est parti. Merci beaucoup, Françoise.
Merci. Thank you.
www.radionv.ch